Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Quand notre Seigneur emploie cette expression, en vérité, je vous le dis, c'est une affirmation absolue, infaillible, divine, pour attirer notre attention sur une vérité capitale pour nous, la prière. Voyons d'abord sa nécessité. Si notre Seigneur Jésus-Christ en a fait un précepte divin, exposé en de nombreux endroits de la Sainte Écriture, c'est parce qu'elle nous est nécessaire pour faire notre salut. Saint Luc rapporte que notre Seigneur raconta la parabole de la veuve et du juge d'iniquité pour montrer aux apôtres qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Au jardin des Oliviers, aux apôtres qui se sont endormis pendant qu'ils priaient, Jésus leur dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur dit à la foule « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Si notre Seigneur nous fait un précepte de prier, c'est parce que notre indigence est extrême. Tout d'abord, dans l'ordre naturel, nous ne pouvons rien faire sans le secours de Dieu. L'expérience nous le montre tous les jours. Que nous soyons jeunes ou âgés, quand une maladie nous frappe, nous sommes réduits à rien, incapables d'accomplir le moindre de nos devoirs, que pourtant nous accomplissions sans effort et avec facilité auparavant. Dans l'ordre surnaturel, il en est de même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit notre Seigneur. Et il illustre cela par la parabole de la vigne. Il est la vigne, nous sommes les sarments. La sève, c'est la grâce qui vient du cep de la vigne, notre Seigneur. Les sarments qui sont coupés de la vigne par le péché mortel sont morts à la vie surnaturelle. Et s'ils ne sont ressoudés au cep par le sacrement de pénitence avant la mort, ils seront jetés au feu, c'est-à-dire en enfer. Même si nous ne sommes pas coupés de notre Seigneur par le péché mortel, il peut arriver que nous ne portions pas ou peu de fruits, car nous ne sommes pas assez unis à lui, et que des maladies, des péchés véniels non corrigés, des défauts, des imperfections, empêchent la grâce de circuler facilement. Le sarment végète, ou alors il se développe d'une manière trop naturelle, produisant beaucoup de rameaux, de feuilles, mais presque pas de fruits. C'est pourquoi le vigneron vient tailler la vigne par des épreuves, afin qu'il porte des fruits. Notre indigence est encore plus criante dans les tentations. Sans la prière, nous sommes comme des soldats sans armes, sans protection. La défaite est certaine. Nous avons l'exemple de Saint Pierre au jardin des Oliviers. Notre Seigneur leur demande de prier. Ils ne prient pas. Et Saint Pierre, quelques heures plus tard, sur une simple question de curiosité d'une servante, il va renier son maître. Parce qu'il n'a pas prié. Après le baptême, une continuelle prière est nécessaire à l'homme pour entrer au ciel. Car nous devons vaincre, dit saint Thomas, le foyer du péché qui nous attaque au dedans, le monde et le démon qui nous attaque au dehors. Notre indigence va-t-elle nous conduire au découragement? Si c'est le cas, c'est que nous sommes conduits par l'esprit d'orgueil. Nous manquons d'humilité et de la confiance qu'un enfant de Dieu doit avoir. Qu'y a-t-il de plus indigent qu'un petit enfant ? Il ne peut préparer lui-même sa nourriture, se vêtir, se laver. Il est en tout dépendant de ses parents. Va-t-il s'inquiéter, se décourager, s'attrister, se mettre en colère ? Non, car il a toute confiance en ses parents. Elle leur demande tout ce dont il a besoin. Il obtient d'eux tout ce qui est bon pour sa santé, pour sa croissance et sa protection. C'est l'attitude que nous devons adopter envers Dieu, notre Père. Dieu connaît mieux notre indigence que nous, et cependant, ses exigences dépassent infiniment nos capacités. Il veut que nous soyons parfaits, comme il est parfait, que nous observions les commandements, que nous résistions et que nous soyons vainqueurs dans les attaques de l'ennemi. Il veut faire de nous des saints du ciel qui, pour jouir du bonheur éternel dans le royaume des cieux, soient capables d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, de souffrir avec lui et de le suivre jusqu'au sacrifice de la vie s'il le faut. Pourtant, Dieu ne commande rien d'impossible, dit saint Augustin. Il veut simplement que nous lui demandions par la prière tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Si Dieu veut que nous lui demandions, ce n'est pas qu'il ignore nos besoins, mais pour que nous comprenions, dit saint Thomas, la nécessité où nous sommes de recourir à lui et de le reconnaître pour l'unique auteur de tout bien. Ah, si nous comprenions combien la prière est nécessaire à la vie de notre âme, nous y consacrerions plus de temps. Les personnes qui ont des problèmes respiratoires ne vont-elles pas passer du temps dans les régions au climat propice, ensoleillé, à l'air sain, comme dans les stations de Cerdagne, dans les Pyrénées ? Si elles le pouvaient, elles y passeraient toute leur vie, tellement elles se sentent revivre. Si un roi tenait à notre disposition une somme d'argent qui nous permettrait d'acheter une maison, n'irions-nous pas la lui demander sans tarder ? Nous n'hésiterions pas un instant à mettre de côté les choses non urgentes, vaines ou inutiles, pour demander une audience. Et pour préparer le voyage qui doit nous conduire à l'éternité, où se trouve la santé parfaite, la vie en plénitude, exempte de tout mal, nous consacrerions moins de temps, moins d'efforts. Réfléchissons, mes frères, sérieusement. Si nous négligeons la prière, ne serait-ce que le chapelet quotidien, si nous la bâclons, nous risquons de ne pas atteindre le but de notre vie. Et si par malheur, nous la laissions tomber, on le voit autour de nous, dans nos connaissances, nous serions alors sûrs d'une chose, c'est de nous damner. Alors ne nous laissons pas rebuter par les difficultés. En nous donnant la prière, Dieu a remis entre nos mains une clé des trésors du ciel, la clé des trésors du ciel. Et cette clé renferme une efficacité merveilleuse. Alors voyons son efficacité. Quels sont ses fondements ? Dieu est Père, d'une bonté et d'une puissance infinie. Notre Seigneur lui-même a voulu nous l'expliquer dans le sermon sur la montagne. Quel est parmi vous l'homme qui, si son fils lui demande un poisson, lui présentera-t-il un serpent ? Ou s'il lui présente une pierre, s'il lui demande du pain, lui présentera-t-il une pierre ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le lui demandent. Nous avons de plus ce serment solennel de notre Seigneur au début de l'Évangile. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Or Jésus est la vérité. Il ne peut pas nous induire en erreur. Nous sommes donc sûrs d'être exaucés, pourvu que nous le fassions en son nom. Alors, qu'est-ce que signifie cette phrase un peu mystérieuse ? Saint Augustin nous explique ce que cela signifie, demander au nom du Christ. Seul celui qui a la vraie foi, qui croit ce qu'est en vérité Jésus, Fils de Dieu fait homme, peut demander en son nom, pourvu qu'il ne demande rien de contraire à son salut. S'il fait ainsi, il est sûr d'être exaucé selon le temps déterminé par la Providence. Ces motifs, mes frères, sont bien consolants. Mais pour nous fortifier davantage, considérons les merveilleux effets de la prière. La prière obtient la victoire sur les démons, sur la chair, ses convoitises. Elle nous aide à pratiquer les vertus chrétiennes et à nous sanctifier. Prenons un exemple. C'est par la prière que Matt Talbot, un docker irlandais de Dublin, a pu se libérer de sa passion pour l'alcool et mener une vie chrétienne exemplaire et faire une sainte mort en 1925, au point que son procès de béatification était en cours en 1953. Il est né en 1856 d'une honnête famille ouvrière. Il entre en apprentissage à 12 ans dans une maison de spiritueux. Très vite, il se met à boire et abandonne au fil des années la pratique religieuse de son enfance. À l'âge de 28 ans, il se retrouve au chômage. Comme ses camarades ne veulent pas lui avancer de l'argent pour payer l'alcool, et que lui, il est honnête, il ne veut pas voler, il est obligé de ne plus boire. Alors il s'engage pour 3 mois devant une relique de la Sainte Croix à assister tous les matins à la messe de 5 heures et à faire chaque soir une prière à l'église. La semaine suivante, il retrouve du travail. Mais voilà, il va être très tenté. À la première paye, il est très tenté de reprendre de l'alcool. Et ces tentations vont durer pendant 2 à 3 ans, tentations lancinantes, mais il ne va pas céder. Mais ça commence à l'user au point qu'il est tenté de désespoir. Un jour, la tentation est plus forte, il entend une voix intérieure lui dire « Il est inutile de lutter plus longtemps, la persévérance est impossible. » On reconnaît là la tentation diabolique. Il se jette alors à genoux sur les marches de l'entrée de l'église, les bras en croix, et s'écrie « Certainement, mon Dieu, je ne veux pas retourner dans les habitudes que j'ai abandonnées. » Et alors, il prie la Vierge Marie d'intercéder pour lui. Et là, aussitôt, la paix revient. Sa vie va devenir, à partir de ce moment, une ascension ininterrompue vers la sainteté. Il va continuer sa vie de docker en y ajoutant la prière de nuit. Chaque nuit se relève un certain temps pour prier. La messe et le chemin de croix quotidien, le jeûne 3 fois par semaine et il ajoute encore des pénitences, ne serait-ce qu'un cilice, etc. Comme c'est la Sainte Vierge Marie qui lui a obtenu cette grâce, il a souvent de longs entretiens dans la prière avec elle, et donc c'est elle qui va le faire progresser. Il devient un exemple de vertu pour ses camarades ouvriers. Il pratique la charité, il les reprend dans les grossièretés, etc. Il nourrit son âme par des lectures spirituelles, et il va mener cette vie jusqu'à l'âge de 74 ans. Un matin, qu'il se rend à l'église des Dominicains, il va être frappé d'une crise cardiaque et il va mourir là, en arrivant à l'église. Il est connu pour sa piété, pour sa serviabilité, et les gens lui demandent des grâces. De nombreuses grâces de conversion et de guérison sont obtenues par son intercession. La prière obtient aussi des bienfaits temporels. Prenons un autre exemple. En 1566, pendant le pontificat de Saint Pie V, que nous avons fêté il n'y a pas si longtemps, Soliman II, le magnifique sultan de l'Empire ottoman, rassemble une armée formidable et s'apprête à envahir la Hongrie. Pendant que les armées chrétiennes se préparent, Saint Pie V ordonne des prières publiques, accorde une indulgence plénière à ceux qui prient pour le triomphe des croisés. À la nouvelle de ces supplications, Soliman II laisse échapper cette phrase restée célèbre « Je crains plus les prières de ce pape que tous les efforts de ses armes ». L'événement justifia ses craintes. Le 30 août 1566, la mort vient le frapper. Son fils, Selim II, concluait avec l'empereur germanique Maximilien une trêve de 8 ans pour consolider son pouvoir. Bon, il rompra la trêve au bout de 4 ans et on aura la bataille de Lépante 4 ans plus tard. Mais pour l'instant, l'Europe échappe pour 4 ans à l'invasion islamique. La prière remplit notre âme de consolation et comble nos plus ardents désirs. Prenons l'exemple d'une petite fille, Imelda Lambertini. Elle entre à l'âge de 9 ans comme élève dans un monastère de l'ordre dominicain à Bologne, en Italie. Elle reçoit bientôt l'habit et embrasse avec courage toutes les rigueurs de la vie monastique, le jeûne, les prières, les offices, etc. À 9 ans, ce n'est pas très facile, mais elle est courageuse et elle va devenir un modèle d'observance dépassant en vertu les sœurs les plus anciennes. Elle brûle d'amour pour Jésus dans le Saint-Sacrement et passe souvent des nuits entières en prière. Elle n'a qu'un désir, qu'un regret, celui de ne pas pouvoir communier. Car à cette époque, la communion se faisait à un âge tardif. Voilà, aujourd'hui, les enfants ont de la chance, ils peuvent communier dès l'âge de 5-6 ans. À l'époque, c'était beaucoup plus tard. La veille de l'Ascension, 1333, elle a 10 ans, tandis que les religieuses allaient tour à tour recevoir notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, Imelda, retenue dans la stalle, loin de la table sainte, par l'obéissance, mais animée d'une confiance invincible, se consumait du désir de recevoir Jésus. Soudain, à la grande stupeur de tous, une hostie descendue du ciel apparut au-dessus de sa tête. Le prêtre, comprenant le vouloir de Dieu, vient, s'approche d'elle, recueille la sainte hostie et communie la jeune enfant. Imelda ne peut contenir son bonheur. Ses yeux se ferment, son cœur cesse de battre. Elle est morte d'amour, elle est avec Jésus pour toujours. Dieu a exaucé sa prière. On pourrait multiplier les exemples, tant dans l'Ancien Testament que dans l'histoire de l'Église. Quel que soit l'âge, la condition sociale de ceux qui prient Dieu avec confiance, leur prière est exaucée. Alors, chers fidèles, chers enfants, qui allez recevoir Jésus tout à l'heure dans votre cœur pour la première fois, demandez-lui la grâce de l'aimer par-dessus toutes choses, de le prier avec confiance, de vous donner toutes les grâces dont vous aurez besoin au cours de votre vie pour le rejoindre un jour au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.